Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
8h39, c'est donc la revue de presse avec Adeline François et dans la presse ce matin, des voyants au rouge.
Gertrude commençait vraiment à être débordée, alors on a décidé d'alléger enfin sa charge de travail. Gertrude, pourtant, n'était pas payée. Mais normal, c'est un robot. Gertrude, c'est le nom du système de régulation des feux tricolores de l'agglomération de Bordeaux. Un système qui gérait jusqu'à récemment les feux de 669 carrefours. On lui en a enlevé 30. Comme Bordeaux, de plus en plus de villes décident de supprimer des feux tricolores. Abbeville, Nantes, Niort l'ont déjà fait. Paris pourrait bientôt s'y mettre. Et c'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. La fin des feux rouges. L'objectif, c'est de fluidifier le trafic, mais aussi, et c'est plus étonnant, d'améliorer la sécurité. 10 000 accidents se produisent chaque année en France au niveau d'un feu rouge. 150 morts par an, 1500 blessés. À l'étranger, les villes qui sont passées aux rues nues, comme on dit, c'est-à-dire des rues sans feu, ont vu leur nombre d'accidents baisser de 25%. C'est le cas de Philadelphie aux États-Unis ou de Drachten aux Pays-Bas. En France, les premiers résultats sont déjà spectaculaires, nous dit le journal. À Abbeville, il ne reste plus qu'un seul feu tricolore et les bouchons ont quasiment disparu aux heures de pointe. Étrangement, en fait, une fois le feu enlevé, on constate que les automobilistes arrivent beaucoup moins vite au carrefour, là où auparavant, ils accéléraient pour éviter l'orange. Une prudence observée aussi chez les piétons. Les feux en voie d'extinction, c'est à lire dans le Parisien ce matin.
Alors, d'autres feux qui ne s'éteignent pas dans la presse ce matin.
Oui, en une du Figaro, la photo du véhicule technique de RTL incendié samedi à Bobigny. Émeute en banlieue parisienne, la police craint la contagion, titre le Figaro qui raconte comment les services de renseignement glanent tout ce qu'ils peuvent pour tenter d'anticiper les prochains points de rassemblement. Et en fait, c'est ce point qu'il faut lire dans le Figaro. Les services de renseignement sont en plein recrutement. Pour faire face aux différentes menaces du moment, la DGSE va engager d'ici 2 ans près de 600 agents au profil très varié. Des ingénieurs en traitement du signal, des experts du nucléaire, des crypto-mathématiciens, mais aussi des linguistes. Les renseignements manquent en effet cruellement d'espions parlant le russe, le chinois, le persan ou le coréen. Le problème, explique le responsable de la formation à la DGSE, c'est que l'université produit peu d'élèves qui ont le niveau requis par nos services. Ceux qui parlent persan sont spécialistes en fait de la poésie persane au XVIe siècle, là où l'on aurait besoin de gens capables de transcrire des données techniques sur le nucléaire en persan. Alors vous pensez avoir le profil ? Présentez-vous. Mais attention, il y a d'abord un concours d'entrée et une fois admissible, vous passez un grand oral devant un jury maison qui vous mettra en situation pour tester votre émotivité, votre capacité à interagir avec un entourage inconnu. L'objectif, explique la DGSE, c'est d'être aussi à l'aise dans des palaces que dans des milieux ethno-différenciés. Alors vous entrez à la DGSE, c'est très bien, mais vous devrez d'abord signer et lire solennellement devant tout un amphithéâtre une charte qui porte l'acronyme LEDA. Loyauté, exigence, discrétion, adaptabilité, LEDA. Ensuite, vous ferez l'objet tous les 5 ans d'enquêtes de sécurité et d'évaluation psychologique. Avertissement d'un colonel des renseignements, si l'une de nos recrues se marie à une chinoise ou va passer ses vacances à Pyongyang, nos voyants se mettent au rouge.
Les électoraux s'y voient rouge.
Oui, rencontre avec des électeurs déboussolés, titre Ouest France ce matin en une. Pourquoi cette élection bouscule tout en une du Progrès? Une campagne troublée en une de La Croix. Dans 10 petites semaines, rappelle Nicolas Beytout dans l'Opinion, on connaîtra le nom des 2 finalistes de cette présidentielle. Et pourtant, ajoute-t-il, jamais campagne électorale n'aura été aussi imprévisible. On ne sait même pas qui sera finalement candidat. François Fillon le restera, dit-il, vraisemblablement. Mais Yannick Jadot ou François Bayrou laissent planer le doute. Ce sont donc des centaines et des centaines de milliers de voix qui sont dans l'attente aujourd'hui de savoir où elles pourraient se poser. Et c'est aussi la une de Libération ce matin. Campagne présidentielle au-delà du réel. Bien malin qui pourra imaginer la suite. Alors Libé a demandé son avis à un scénariste, en l'occurrence à Dan Franck, à qui l'on doit la série Les Hommes de l'Ombre. Depuis l'affaire DSK, dit Dan Franck, cette campagne est la 2e série politique qui se vend le mieux à l'international. Ça prouve que nous, Français, on sait y faire. Ce qui m'intéresse, explique Dan Franck, c'est la révolte des personnages secondaires. Pénélope Fillon, par exemple, j'en ferai une fémène qui se rebellerait contre son mari. Elle aurait une fille ou une copine qui lui dirait « arrête tout » et elle reprendrait le pouvoir. Alerte rouge.
Du rouge aussi en Bretagne.
Oui, alors ça c'est 20 minutes qui nous apprend que la Bretagne boit rouge. D'ici quelques mois, les vignerons de Garot vendangeront et produiront la toute première cuvée bretonne de vin rouge. Il y a 4 ans, en fait, des viticulteurs à la retraite ont décidé d'arracher la partie haute du coteau de Saint-Suliac, c'est en Ille-et-Vilaine. C'est un coteau qui produisait du blanc. Ils ont décidé d'y planter 400 pieds de rondeau. C'est un cépage robuste utilisé dans les pays nordiques et les îles anglaises, pas forcément connu pour produire le meilleur pinard, n'est-ce pas ? On tient quelque chose de puissant, fruité et tannique. C'est prometteur, disent les viticulteurs retraités, qui rappellent que si la Bretagne ne produit pas de vin rouge, ben c'est la faute à Colbert. Il avait tout fait arracher au XVIIe siècle pour planter des pommiers et produire du cidre. Alors on attendra le mois de septembre prochain pour dire si cette première cuvée est de haute bolée.
C'était la revue de presse d'Adeline François.